Yes, we can.
Ils sont vénézuéliens et fuient leur pays.
Depuis des temps immémoriaux, vit ici un peuple qui vénère les femmes. Ce sont les Mozos.
Ici le monde, c'est un voyage en trois escales de ce qui fait l'actualité à l'étranger. Cap ce matin sur la Serbie, où malgré la démission du Premier ministre cette semaine, la colère de la rue ne faiblit pas. Tout est parti d'un accident, l'effondrement d'un toit dans une gare du pays il y a 3 mois. Un accident qui a fait 15 morts et qui a mis en lumière des malfaçons dans la construction. Une enquête est en cours, une dizaine de personnes ont été inculpées, dont un ex-ministre. Mais la mobilisation sociale ne faiblit pas. On en parle avec notre correspondant à Belgrade, Simon Rico. Simon, le Premier ministre a démissionné, je le disais cette semaine. Est-ce que ça va régler les choses? Parce qu'après 3 mois de contestation, la grogne est profonde.
Et ben voilà une très très bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après des mois de blocage, on vient donc d'avoir les premiers gestes en faveur des manifestants de la part du pouvoir. Le Premier ministre a démissionné, le Premier ministre qui est un homme de paille, le vrai maître en Serbie, c'est le président. En tout cas, cette démission de Miloš Vučević, elle n'a pas suffi à apaiser la colère, hein, d'autant plus que jusque-là, les autorités, elles avaient traité la révolte avec mépris. Elles assurent même qu'elle est ourdie par des puissances étrangères hostiles à la Serbie, cette révolte. Le fait est que cette démission et cette adresse du président à la nation, ça montre en tout cas que le pouvoir aujourd'hui, il semble s'inquiéter de ce qui s'apparente à un véritable soulèvement. L'ampleur de la mobilisation aujourd'hui, elle est inédite depuis la révolution de l'automne 2000, qui avait abouti, je le rappelle, à la chute du régime nationaliste de Slobodan Milošević. À noter que le président serbe a invoqué les effets négatifs de la révolte sur l'économie, donc il a jeté l'opprobre sur les manifestants en rappelant que ça nuisait aux investissements étrangers, des investissements qui sont cruciaux pour porter la croissance de la Serbie.
Pourquoi cette manifestation n'aboutit pas? Ces manifestations n'aboutissent pas? Les étudiants à la manœuvre ne font pas le poids?
C'est l'argument que fait valoir le régime depuis le début de la révolte. Puis en fait, on a une Serbie qui est vraiment divisée en deux parties. Et le président Vučić tient à parler toujours à la majorité soi-disant silencieuse du pays. Alors aujourd'hui, la révolte actuelle, les enquêtes d'opinion montrent qu'une majorité de la population serbe les soutient les revendications qui sont, comme vous le disiez, portées par les étudiants. Il faut aussi noter qu'il y a pour une fois une très forte solidarité de l'importante diaspora serbe, avec des manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs capitales européennes et même jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, Aleksandar Vučić semble prêt à lâcher un peu de lest parce que c'est la première fois que son pouvoir, Aleksandar Vučić, il est au pouvoir depuis plus d'une décennie, c'est la première fois que son pouvoir est si fortement contesté, lui qui tient le pays donc d'une main de maître depuis un peu plus de 10 ans.
Je vous propose d'écouter Anjela, une jeune habitante de Belgrade. Elle explique pourquoi elle participe activement à ces manifestations.
Aujourd'hui, on espère un vrai printemps, avec un vrai changement. Pour le moment, notre État n'est pas un État démocratique. On ne peut pas vivre dans des conditions pareilles. Nous essayons de changer cela, de créer les conditions pour qu'il soit possible de vivre ici.
Ces jeunes aujourd'hui, c'est quoi leur vie, Simon, leurs difficultés?
Voilà une très bonne question. Ce qui est vraiment fondamental dans la révolte actuelle, c'est qu'effectivement, elle est emmenée par les étudiants, par la jeunesse de la Serbie. Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est l'impossibilité d'y construire sa vie parce que la Serbie, pour ses étudiants, n'est plus une démocratie, qu'il faut avoir sa carte du parti au pouvoir, le parti progressiste serbe, pour espérer trouver un emploi ou favoriser sa carrière. Alors bien sûr, il y a une partie de la Serbie qui s'accommode de cette dérive autoritaire et corrompue du régime parce que la croissance économique est au rendez-vous. Mais il y a un vrai problème en Serbie, c'est que le pays est confronté à un exode massif de sa jeunesse. Cet exode, il menace désormais directement l'avenir du pays. Beaucoup de Serbes soutiennent la mobilisation parce qu'elle est portée par les étudiants, des étudiants qui se battent pour la démocratie et l'état de droit, afin de pouvoir imaginer un avenir dans leur pays.
La Serbie a un voisin qui fait souvent parler de lui au sein de l'Union européenne, c'est la Hongrie. À sa tête, Viktor Orban et son parti qui exercent un contrôle quasi total sur les institutions, les médias. Est-ce qu'on peut comparer les deux pays?
Eh bien, je dirais que c'est une comparaison qui est très pertinente parce que le SNS, le parti progressiste serbe du président Vučić, il exerce finalement la même emprise sur la Serbie que le Fidesz de Viktor Orban sur la Hongrie. Pour vous donner une idée, hein, le SNS du président Vučić, il contrôle toutes les institutions en Serbie, 2/3 des sièges au Parlement. L'opposition ne dispose plus d'aucun levier dans le pays. Même l'ensemble des communes de Serbie sont aux mains du parti au pouvoir. Pareil, hein, il y a la quasi-totalité des masses médias qui sont favorables. Ils lancent par exemple de fausses informations contre l'opposition ou minimisent tout ce qui pourrait nuire à Aleksandar Vučić. À ce titre, la révolution, la révolte actuelle, elle est peu couverte par ces médias, ou si elle est couverte, c'est souvent pour mettre en avant sa prétendue violence, à tel point que cette couverture est tellement biaisée que les manifestants, ils ont plusieurs fois défilé devant la radio-télévision publique pour demander une couverture plus objective.
Il y a des liens quand même entre ces deux pays, ils sont amis.
Bien sûr, il y a des liens très importants. Aleksandar Vučić et Viktor Orban sont très proches. Aujourd'hui, la Hongrie de Viktor Orban est sûrement le plus fort soutien à l'intégration européenne de la Serbie, hein, une intégration qui est bloquée depuis le début de la guerre en Ukraine parce que la Serbie refuse de s'aligner sur les sanctions européennes contre Moscou. Et ce qu'il faut dire, c'est que Aleksandar Vučić s'est largement beaucoup inspiré de Viktor Orban pour bâtir l'architecture de son régime. Les deux hommes on partage la même vision du monde, hein, qui est basée sur le néoconservatisme et l'illibéralisme. Il faut savoir qu'il y a des ponts entre la Serbie et la Hongrie qui passent notamment par l'importante minorité hongroise qui vit en Vojvodine, dans le nord de la Serbie. Et ça sert aussi de pont entre les régimes d'Aleksandar Vučić et de Viktor Orban, qui sont très proches dans leur vision du monde, mais aussi dans leur contrôle de leurs pays respectifs.
Je précise encore que de nouvelles manifestations ont lieu ce week-end. Le président serbe fait également face à une plainte pour incitation à la violence. Elle a été déposée par une organisation de la société civile après qu'un conducteur a foncé sur une manifestation étudiante à Belgrade, renversant et blessant une femme. Deuxième escale, les États-Unis et le Texas. C'est dans cet État républicain qu'Elon Musk a installé ses sociétés. Le Texas et sa législation minimale, plus de libertés individuelles, très peu de taxes. Le Texas où Elon Musk peut donc imprimer son idéologie libertarienne. Reportage.
Nous sommes ici dans un estuaire fragile au bout d'un isthme. La route serpente le long des temps et juste avant de rejoindre le sable à quelques mètres de l'océan se dresse désormais le pas de tir de SpaceX. Deux tours métalliques au pied desquelles s'agglutinent des touristes fascinés. Héloïse a fait 6 heures d'avion depuis le Canada pour être devant l'œuvre d'Elon Musk.
I just love it.
Mais je l'adore et j'adore son idée d'aller dans l'espace. Cette exploration, c'est comme quand les hommes sont montés dans des bateaux et ont traversé l'océan. C'est juste l'endroit où ils veulent aller qui change.
Alors pour découvrir la zone, Maria Pointer est la guide idéale. Elle a vécu ici avant d'être délogée par SpaceX. Elle nous emmène en voiture.
Je vais me garer par ici. Vous voyez le X sur cet immense bâtiment ? Eh bien c'est là qu'était notre maison.
Maria décrit un paradis perdu, le coucher du soleil et le chant des oiseaux, mais elle n'en veut pas à Elon Musk. Elle a même reconverti un de ses terrains en camping pour admirer le décollage des fusées.
Nous sommes à 6 km à la limite de la zone d'exclusion
et n'a pas raté un seul lancer.
Si on voit les choses positivement, alors on est très excité. Je suis comme une enfant. Cela va être un monde complètement nouveau pour ma petite fille.
Mais en attendant de changer le monde, Elon Musk transforme la région. SpaceX a créé ici 3400 emplois directs, de quoi donner des ailes à Nathan Burkhardt. Il est vice-président de la Société locale de développement économique.
Il y a beaucoup plus de taxes de séjour, de touristes, de visiteurs. On voit beaucoup d'emplois dans la tech, mais aussi dans des secteurs plus classiques, comme la construction, les travaux. Il y a 10 ans, tu n'aurais pas pu aller à l'université ici, devenir ingénieur, et après travailler pour une entreprise comme SpaceX. Tu aurais dû partir. Maintenant, tout ça peut être réalisé dans ta ville natale. En 2013, ils sont venus parce que la ville de Boca Chica leur a accordé une réduction d'impôts. Si on nous compare à la Californie ou New York, les taxes et la réglementation sont beaucoup plus légères.
Et qu'importe les oppositions, la méthode Musk passe comme un bulldozer dans une baie pourtant classée refuge naturel. Changement de décor, nous voilà dans le local du réseau pour la justice environnementale du Sud Texas, dans une maison délabrée du centre de Brownsville, localité la plus proche.
Leur activité détruit le milieu naturel, alors qu'il y a ici des oiseaux, des animaux.
Josette Hinojosa en est la cofondatrice et a lancé plusieurs actions en justice contre SpaceX.
Sans parler de tous les gens qui vivent dans cette zone et subissent chaque lancée, le bruit, les rejets de produits chimiques dans l'eau, les débris qui retombent aux alentours.
Des rapports indépendants ont prouvé les effets néfastes de l'activité de SpaceX sur l'environnement, mais l'administration fédérale de l'aviation envisage de passer de 5 à 25 tirs par an. Christopher Basaldo, militant écolo, est très inquiet de voir Elon Musk si proche du nouveau président.
Il ne contribue pas à une science positive ou à la protection de la santé des gens. C'est une chose que Musk et Trump ont en commun. Ce sont des escrocs qui pensent que leurs évasions fantaisistes vers une planète morte comme Mars sont plus importantes que simplement fournir de la nourriture ou un toit aux plus pauvres d'entre nous.
Dans ce comté du Texas, et malgré les nombreuses Tesla qui roulent en ville, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Un reportage de Fossil Calmel pour France Inter. Dernière étape de notre voyage, la Birmanie, un pays sous état d'urgence depuis près de 4 ans, depuis un coup d'État qui a renversé le gouvernement de l'ancienne prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. La junte militaire a pris le pouvoir en 2021 et prolonge tous les 6 mois cet état d'urgence. C'est ce qui est arrivé une nouvelle fois ce 31 janvier. Les conséquences sont terribles pour la population. 19 millions de personnes sur 55 millions d'habitants vivent dans une situation de grande précarité, plus de 3 millions d'autres ont été déplacés. La junte fait face à une opposition, une guérilla qui gagne du terrain. Mais est-ce pour autant la fin du régime? Le retour de la démocratie est-il envisageable? On en parle avec Sophie Boisseau-Durocher, chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Madame, l'état d'urgence a été prolongé, tout le monde s'y attendait. La junte militaire parle, elle, d'un anniversaire.
Écoutez, tout dépend de quel côté on se trouve, évidemment. Pour la junte, c'est un anniversaire, puisque ça fait 4 ans qu'ils prétendent vouloir restaurer la stabilité et la prospérité du pays. Et évidemment, pour la société civile, organisée dans des mouvements de résistance, c'est évidemment un anniversaire dramatique. Depuis 4 ans, il vit en effet sous un décret d'urgence, qui autorise les militaires à assumer toutes les fonctions du gouvernement et qui donne au général Min Aung Hlaing, qui a organisé ce coup d'État en février 21, les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Donc on est véritablement dans une situation de blocage avec deux forces en présence, et force est d'admettre après 4 ans que la résistance, pour l'instant, a pris le dessus.
Face à cette junte, il y a une guérilla, une opposition, une résistance, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Est-ce qu'elle pèse? Est-ce qu'elle s'organise?
Cette résistance s'organise, elle s'organise assez efficacement. Pas mal de ses membres vivent à l'étranger. On estime aujourd'hui que la NUG a réussi à lever 100 millions de dollars ces 3 dernières années. Donc, elle a réussi, si vous voulez, à obtenir les ressources suffisantes pour entretenir la guérilla avec des armes, avec des moyens de communication efficaces, et puis également de soutenir une partie de la population qui est particulièrement éprouvée par les comas. Mais de façon plus fondamentale, la résistance a réussi à décrédibiliser l'armée. Aujourd'hui, elle ne contrôle plus que la moitié du territoire national. On observe une multiplication des défections et des actes de sabotage perpétrés à l'intérieur de l'armée même. La Tatmadaw, cette armée birmane, a été obligée d'imposer la conscription obligatoire en février 24. Cela entretient évidemment son impopularité auprès des jeunes.
Quelles sont alors les probabilités de maintien, de succès de la junte au pouvoir?
La junte aujourd'hui doit faire face à la résistance intérieure de la société, qu'on ne doit pas négliger. Elle doit faire face également aux défections au sein même de ses rangs et enfin à une situation économique catastrophique. Il ne faut pas oublier également que les soutiens extérieurs restent relativement aléatoires à l'exception de celui de la Russie. Même la Chine demande une coopération avec les ethnies puisqu'il faut trouver des solutions. De même, l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, cherche à entraîner la junte dans un flux de négociations qui permettrait de trouver une situation durable, puisque l'on sait aujourd'hui que tant que la junte sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix durable en Birmanie.
La Birmanie est sous sanction, la situation humanitaire est catastrophique, hein, je le disais, 3 millions de personnes sont déplacées, 19 millions d'autres vivent dans une grande précarité, la croissance est négative, moins de 2%, le produit intérieur brut est de 20% inférieur à celui qu'il y avait il y a 5 ans. C'est assez négatif comme tableau. Y a-t-il encore un espoir de retour de paix, de démocratie dans ce pays? Et si oui, de qui peut-elle venir cette paix?
Ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est qu'elle ne passe plus par l'armée. C'est-à-dire que l'armée prétend toujours qu'elle va rétablir la démocratie. Elle n'est plus crédible. Ça fait plusieurs fois qu'elle mène le peuple birman dans un mur. Et donc, aujourd'hui, la société civile sait que la démocratie ne pourra venir que d'elle. On n'est plus dans l'ère Aung San Suu Kyi, qui a longtemps été la figure emblématique de cette lutte pour la démocratie. Elle ne reprendra pas le combat, même si elle reste une figure essentielle de cette trajectoire démocratique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour la première fois, les jeunes dirigeants qu'on rencontre quand on va en Birmanie discrètement travaillent évidemment sur une nouvelle constitution, sur un nouveau projet d'unité nationale et sur un avenir qui ne peut être que meilleur.
Vous êtes l'autrice d'un ouvrage « L'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde ». À part peut-être la Birmanie, pour vous, l'Asie monte en puissance, mais une montée dont on ne parle pas et une montée silencieuse.
L'Asie pacifique, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Asie orientale, est en train de se transformer en silence, c'est-à-dire que dans le chaos actuel du monde, alors que nous ne parlons que de l'Ukraine, du Moyen-Orient ou des crises en Afrique, l'Asie pacifique continue sa transformation silencieuse. Une transformation qui n'est pas seulement économique, qui n'est pas seulement technologique ou financière, mais qui est aussi une transformation sociétale, politique et diplomatique. Et donc, il y a tout un système régional qui se constitue ou se reconstitue, si on estime que ce système existait avant la colonisation. Et il a le potentiel, ce système, de se poser comme une alternative crédible au modèle occidental. Et donc, en fait, sans le dire, mais de façon très concrète et très pragmatique, l'Asie pacifique est en train de défier l'universalisme de nos prétentions.
Cette force asiatique, madame, peut-elle peser, menacer l'Europe ou les États-Unis ?
Absolument, et je pense que le président Trump l'a évidemment très bien compris. Alors moi, je pense qu'il faut retourner l'argument et de se dire que ça peut être une menace, mais ça peut être aussi une porte de salut, une sortie salutaire, si vous voulez. Nous sommes en crise, ces pays depuis 50 ans connaissent des taux de croissance absolument extraordinaires, qui n'ont jamais historiques, c'est-à-dire qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. On sait aujourd'hui, toutes les pronostics disent bien que la croissance dans la région va se maintenir dans les 10 prochaines années à environ 4,5% de croissance annuelle, quand le reste du monde est à 2,5% et quand l'Europe est à moins de 1%. Donc il y a là, si vous voulez, certainement des éléments qui nous interpellent, et plutôt que de les envisager comme une menace, ils pourraient nous aider aussi à mieux comprendre les vecteur de transformation d'un système européen qui est quand même bien grippé.
Sophie Boisseau-Durocher, autrice du livre « Asie-Pacifique, nouveau centre du monde » aux éditions Odile Jacob. Je précise encore que cette prolongation de l'état d'urgence en Birmanie exclut des élections en 2025. Merci de nous suivre. Merci d'être ouvert à l'actualité internationale.